Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma version homme de femme d'aujourd'hui. Lorsque ce qui peut sembler être un échec se transforme en véritable cadeau et chemin de la vie. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Version homme.
Mehdi Grini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui.
C'est moi Yasmine. Merci beaucoup pour cette invitation.
Moi, j'ai envie de connaître en fait l'homme derrière tout ça. Et par rapport à l'employabilité, par rapport à la formation, par rapport, toi, tu as une formation d'ingénieur, c'est bien ça?
Tout à fait. Ingénieur en textile de l'école Tésite.
Ok. Est-ce que c'était simple pour toi? Est-ce que c'était plus simple que ces jeunes que tu accompagnes?
Alors, je vais être mitigé sur la réponse parce que je vais dire, et moi aussi, j'ai souffert de l'orientation. Parce que une famille, parce que je suis issu d'une famille marocaine normale,
Ça veut dire quoi, une famille marocaine normale?
Alors, une famille marocaine normale, c'est que je ne suis pas né avec une cuillère d'or à la bouche. Mais par contre, j'ai mes deux parents qui étaient salariés et que par souci de bien faire pour leur progéniture, eh ben, on va voir le cousin, on va voir le voisin, quelles études il fait ou quel secteur dans lequel il travaille. Et donc, automatiquement, on va dire le textile, c'était un secteur qui était très, très en avance au Maroc dans les années 2000. Ça fait un peu loin. Et puis, c'était en 99 que j'avais obtenu mon bac. Et puis, j'ai commencé les études au niveau du textile. Et puis, à un certain moment...
Ça fonctionnait bien au Maroc, mais est-ce que ça te plaisait à toi?
Absolument pas. La vérité, Yasmine, absolument pas. Je voulais faire plaisir aux parents. J'ai fait mes études, j'ai fait mes années d'études. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une société de textile. Et puis par la suite, j'ai eu le courage de voir mes parents. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais par contre, ce n'est pas le domaine que je voulais. Et effectivement, c'est un sujet qui revient encore une fois sur la partie orientation. Et puis par la suite, j'ai virevolté sur une gestion de restaurant, parce que ma famille avait une chaîne de restaurants. Et puis je me suis retrouvé à un certain moment, c'était dans les années 2003 plus exactement, dans le domaine de l'offshoring. Et j'ai commencé, Yasmine, j'ai commencé par le début. J'étais chargé de clientèle et puis...
Dans un call center, c'est ça?
Exactement. Okay. C'était la mode au Maroc dans les années 2000. Et puis,
Mehdi, d'ingénieur à call center. Et à l'époque, la réputation des call centers n'était pas... Pourquoi je dis à l'époque? Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion parfois de discuter avec des jeunes issus de ces environnements-là. Et ils m'ont complètement changé ma perception du monde à l'intérieur. Ils m'ont dit combien ça pouvait être formateur, combien de choses on pouvait apprendre à la fois techniquement, mais humainement, parce qu'on rencontre des gens de tous bords, de toute formation, etc. Voilà. Mais voilà, l'ingénieur... qui décide d'aller et qui finalement atterrit dans un centre d'appel, tes parents, ils le vivent comment, Mehdi?
Ils ne l'ont pas accepté. Puis, alors, il faut dire qu'à un certain moment, j'ai choisi d'être indépendant financièrement très tôt. Donc, j'ai un tempérament qui était un petit peu cavalier. Donc, j'ai choisi moi-même d'aller habiter seul. Et donc, pour cela, il ne fallait pas que j'attende que d'avoir le métier convenable ou le métier parfait ou le poste parfait pour l'obtenir. Donc, je me suis dit... Eh bien, tant qu'à faire, je vais être indépendant et puis par la suite, je vais commencer dans ce centre d'appel et en même temps, je vais continuer à chercher. Et depuis, comme dirait l'autre, je suis tombé dans la soupe et ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce domaine-là. Effectivement, Yasmine, le domaine des call centers au Maroc est un domaine qui est très, très porteur, est un domaine qui est régulé par le gouvernement à travers des lois, à travers du monitoring qui est très, très fort et en même temps, en fait, c'est le Maroc en miniature. Mmh. Tu vas trouver de toutes les populations possibles. Et effectivement, c'est un domaine qui est très, très formateur. C'est un domaine qui emploie plus de 200 000 personnes au Maroc. Mmh. Et c'est un domaine
sans en faire la promotion, c'est fou, mais c'est pas... la casquette du pro prend toujours le dessus sur l'homme, l'humain en toi. Dis-moi, sans vouloir faire la promotion de ce secteur, pas du tout, mais toi, tu as appris quoi Alors, après avoir fait l'école d'ingénierie, à travailler deux ans dans une usine de textile, tu débarques dans un autre milieu complètement différent, où on ne te demande pas du tout tes skills d'ingénieur, où tu n'as pas l'aura de l'ingénieur. Tu apprends quoi sur toi à ce moment-là?
J'apprends l'humain. J'apprends déjà le contact social, j'apprends l'adaptabilité à tout environnement et j'apprends le fait que dans la vie, il n'y a pas que des réussites, il y a des échecs. Et j'apprends qu'à un certain moment, il faut être résilient et que peu importe les échecs par lesquels on passe, à un certain moment, il arrivera un moment. Si on travaille sur soi, si on est assez mature émotionnellement pour se dire à un certain moment ça ne marche pas comme ça, et ben je vais avoir la maturité de changer de cap et travailler sur quoi je dois travailler. Et ben il y a des choses, de très très bonnes choses qui peuvent arriver, et c'est grâce à cela que j'ai fait carrière là-dessus. Mais en même temps, si tu veux, Yasmine, c'était aussi un signal pour moi que ma fibre était beaucoup plus humaine et beaucoup plus aider l'autre. Et donc, c'est à travers ça, si tu veux, c'est à travers le pro que je me suis intéressé beaucoup plus à la partie sociale, à la partie associative. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Hope.
Alors, est-ce que parfois, en regardant en arrière, en te disant « ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine, c'est un domaine tellement pointu et précis », est-ce que je ne suis pas dans ma zone de confort et c'est pour ça que je n'en sors pas? Certains pourraient te dire, je n'ai rien fait d'autre de ma vie à part développer et travailler pour l'offshoring.
Alors en fait, si tu veux, l'offshoring est une planète. Je vais aller même plus loin, c'est une galaxie. C'est une galaxie où tu as plusieurs postes, plusieurs périmètres et plusieurs... Et en fait, on ne s'ennuie pas. On s'ennuie à partir du moment où on a un certain poste, un certain titre, et on garde ce poste-là pendant des années et des années. C'est là où on va s'ennuyer. Mais par la suite, alors grateful par rapport, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce qui me reconnaissant par rapport à ce qui m'est arrivé. Et en même temps, je suis aussi redevable de beaucoup de personnes qui m'ont pris par la main parce qu'ils ont senti que j'étais motivé pour faire autre chose. Et depuis, chargé de clientèle, à manager d'équipe, à responsable de compte, à responsable de communication, et puis par la suite je suis passé directeur, et sur d'autres aspects, je suis même parti en France, m'expatrié pendant plus de 5 ans à gérer des Français en France pour le compte de cette multinationale, et là je suis de retour au Maroc, super motivé. Pourquoi? Parce que je ne m'ennuie pas dans ce que je fais tous les jours. Pourquoi? Parce que je me donne 2 ans, 3 ans à changer de poste à chaque fois. Et Dieu sait que dans ce domaine-là, qui ne connaît pas de crise, les postes à pourvoir sont très, très intéressants. Donc, zone de confort, non, peut-être pas, mais beaucoup plus une certaine motivation à se dépasser, à un dépassement de soi.
Alors, j'imagine que quand tu discutes avec les jeunes étudiants, c'est que tu as envie aussi de leur épargner ce changement de cap que tu as eu. Voilà. En même temps, maintenant... Enfin, tous les deux, comme on dit, on a roulé notre boss et on se dit, enfin, je me dis, Anna, personnellement, mais je partage ça avec toi, je me dis, je ne pouvais pas savoir qui je voulais devenir, je n'avais pas cette lucidité de qui je voulais devenir, ce que je voulais être et ce que je voulais pratiquer à l'âge de 16 ans, 17 ans au moment de l'orientation ou à l'âge de 20, 21, 22, 23 en sortant de l'univers, enfin, et même pendant, voilà. Oui. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi justement? Qu'est-ce qu'on peut faire?
En fait, comme je l'ai dit, et tu as complètement raison, sur le postulat, il est complètement correct. Par contre, comme j'ai dit au départ, l'impact de Hope tout seul est complètement léger. Le fait qu'il y ait des acteurs au niveau... En fait, l'orientation se fait à partir du primaire, se fait à partir du secondaire, se fait à partir de l'université. Mais c'est les deux, c'est l'espace où devrait se faire l'orientation. Mais cette orientation-là ne peut se faire que si l'école publique ou même l'école privée, primaire ou secondaire, qu'elle soit, il faut qu'elle soit en connexion avec les entreprises. Les entreprises au Maroc ont une visibilité maintenant, après le Covid, ils ont une visibilité moins importante qu'avant. Avant, elles avaient une visibilité de 5 ans. Maintenant, elles ont une visibilité de 2 ans.
Et
donc,
exact.
Elles savent, au bout de 2 ans, quels sont les métiers qui recrutent. Là, on est en train de parler de 2030. on a, alors je vais citer un organisme qui me tient à cœur, que je suis parti voir, l'OFPPT de Stats. Mmh. Alors l'OFPPT de Stats fait les étudiants font de la conduite de trax, de la conduite de pelleteuse, de la conduite de grue. On est en train de construire des terrains. Est-ce que tu sais, Yasmine, je vais juste donner un seul exemple, que maintenant, il y a des écoles qui enseignent la conduite et le pilotage de drones. Pourquoi ? Parce que ces drones vont intervenir dans des zones où les camions ou les voitures ne peuvent pas venir, ne peuvent pas arriver pour lancer et distribuer les engrais. Mmh. Et donc là, on a des filières de conduite de drones. Donc en fait, l'idée, c'est encore une fois faire la connexion entre tous ces acteurs-là et éviter de lancer encore. Alors, nous sommes en 2025, Yasmine, et nous avons toujours des écoles qui enseignent le marketing.
Absolument. Alors Mehdi, ne me sors pas de mon concept. On revient. Let's go back on track. Ça fait. Je t'ai laissé parler de formation, etc. Maintenant, allez, on ne sort pas les ramifications. Retour à ça. Alors, est-ce que ce qui t'a fait prendre conscience de l'importance de ces formations, c'est toutes ces personnes que tu as rencontrées au cours des 20 dernières années dans ton métier, qui est celui des centres d'appel?
Alors, pas que ça. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment dans ma vie, j'étais au chômage.
D'accord.
J'ai passé par une période très, très difficile.
À quel moment ?
Et puis, au moment où je suis sorti de l'école de l'entreprise de textile, exactement, je suis resté au chômage et à un certain moment, je me suis dit, mais comment je vais faire ?
Tu es resté au chômage, pourquoi ?
Je suis resté au chômage parce que je ne voulais absolument pas revenir à la partie textile et en même temps, je voulais absolument toucher à autre chose. Mais j'étais indécis, c'est pour ça que je suis resté au chômage. Et à un certain moment, si tu veux, Yasmine, il y avait quelqu'un qui n'était pas obligé de le faire, mais qui m'a tenu par la main. Et qui m'a tenu par la main et qui m'a aidé à aller passer des entretiens, qui m'a aidé aussi à faire des simulations. Et à un certain moment, je me suis dit, arrivé à ce stade de situation sociale que je reconnais, qui est assez aisée, je me suis dit, il y a un certain moment où je dois rendre l'ascenseur. Mmh. Et je ne peux pas rester à voir des milliers de personnes, des Marocains vivant des situations très, très difficiles, sachant que le Covid est passé par là, sachant que maintenant, on ne parle même plus de jeunes qui n'ont pas de travail suite à leur obtention de diplôme. On parle de seniors qui ont perdu leur emploi. Et donc, à un certain moment, je me suis dit, OK, on va créer quelque chose. Ça va être une goutte dans l'océan, mais on va impacter. Mmh. Impacter positivement avec du conseil, avec du suivi, avec du mentoring et avec aussi de l'orientation.
Toi, toute ta trajectoire a été construite et déclenchée finalement grâce aujourd'hui et pas à cause d'un mauvais choix d'orientation.
Exactement.
C'est ton destin en fait.
Peut-être. Mais c'était le déclencheur. En fait, c'était le déclencheur. Peut-être que si j'avais vécu une autre vie, j'aurais même pas pensé à ça. Mmh. Mais c'est peut-être que je suis passé par cette situation difficile où j'avais mes anciens collègues à l'école qui avaient tous trouvé un emploi et avaient une bonne situation. Et moi seul n'avais pas cette situation auquel je voulais arriver. Et à un certain moment, je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire en sorte de ne rien voir. Et il faut que je donne de ma personne, de mon temps, pour que je puisse, alors peut-être aujourd'hui ça va être une personne, la semaine prochaine deux personnes, et puis par la suite, là par exemple sur l'année 2024, on est fiers d'annoncer qu'on a encadré plus de 524 personnes. Mmh. Et sur les 524 personnes, on a 13% qui ont eu leur CDI jusqu'à maintenant.
Okay.
Et on est fiers de cela, pourquoi ? Parce qu'on se dit, un jeune ou un moins jeune qui a son CDI, en fait c'est pas que la personne qui est impacté positivement, c'est toute une famille.
Absolument.
Et on sait très bien que les familles marocaines se mettent le couteau sous la gorge par rapport à des crédits conso pour payer les études à leurs enfants, et qu'à un certain moment, l'enfant sort, a son diplôme, et puis par la suite, il n'y a rien du tout.
Alors,
et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on impacte positivement.
L'enfant sort, il n'y a pas rien du tout, pas toujours. Et on va équilibrer un petit peu le discours. On va équilibrer un petit peu le discours, Mehdi, si tu permets.
Ouais.
Alors, dis-moi, toi justement, ton entourage l'a vécu comment ce moment-là, quand tu es sorti de l'entreprise, tu étais au chômage, ton entourage, et en fait, quelle relation tu as ensuite construite avec tes parents après cet événement-là?
Écoute, Yasmine, il y avait bon, la mère, on sait qu'elle est tout le temps la plus, on va dire la plus, la plus douce et la plus empathique. Donc j'avais ma mère de mon côté qui me disait, écoute, c'est pas grave. De toute façon, il a fallu que tu fasses ça. Et puis le destin fait en sorte que tu devrais trouver, Inch'Allah, autre chose. Et puis t'as le père avec sa stature et son patriarcat qui se dit c'est anormal. Et le fameux mot qui existe dans toutes les familles marocaines, c'est chouma, qui fait énormément de dégâts. Et puis voilà, à un certain moment, on est passé par une période difficile. Et puis quand les choses se sont améliorées, ben les parents ont bien compris que finalement c'est un mal pour un bien.
Finalement, la relation, elle est bien maintenant, elle est saine.
Non, elle est saine. Elle est saine pour l'instant.
Comment ça pour l'instant? Qu'est-ce que tu veux dire?
La famille marocaine, alors en tout cas de ma perception, la famille marocaine, moi aussi j'ai constitué une famille, et donc la famille marocaine, c'est comme le temps à Casablanca. En fait, il fait parfois chaud, parfois froid, il pleut, parfois on ne sait même pas quel temps il fait, et donc c'est selon les humeurs, selon les trucs. Ouais. Mais pour moi, il est très très important que la stature des parents puisse être, peu importe la situation par laquelle le fils ou la fille passe, il est important de garder cette stature-là de respect et de valorisation.
Ouais. Mais j'imagine que tu l'as compris davantage avec l'arrivée de tes propres enfants.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et là, on va parler d'un autre terme, Sirdat al-Walidin.
Ouais.
On est continuellement à la recherche de cette Sirdat al-Walidin qui est importante. Alors, c'est un capital immatériel, c'est un capital qui est pas reconnu ailleurs.
Exact.
En tout cas, pour nous, Marocains, on donne beaucoup, beaucoup de valeur à ce principe-là.
Oui, absolument. Tes enfants, ils sont encore loin de l'orientation?
Ils sont encore un peu loin. J'ai Adam qui a 2 ans, qui est né en France. Et j'ai Selma qui a 8 ans, qui commence à prendre une personnalité assez imposante, qui veut s'affirmer un petit peu dans la famille. Et c'est une très, très bonne chose. Mm. Notre mode d'éducation est complètement différent de celui de nos parents. Et donc, autant que père et même ma femme, nous laissons libre cours à nos enfants pour partager leurs émotions, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et nous pensons que c'est très, très important pour que la personnalité de l'enfant, parce que l'ADN et la personnalité se créent et se construisent à travers le petit âge, le bas âge. Et pour nous, c'est important.
Oui. Par rapport à ça, justement, elle a 8 ans, Selma Tabarkallah, donc dans quelques années, elle est primaire, fin du primaire, début du collège. Ça passe très, très vite. Par rapport à justement l'orientation, la sensibilisation aux potentielles ouvertures du monde, tu comptes y prendre comment?
Ben écoute, je pense que Selma a la chance ou la malchance d'avoir un papa qui est président d'une association, mais qui travaille essentiellement sur ça. Alors en tout cas, j'espère que l'association va grandir d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans. Mais en fait, l'orientation, pour moi, Yasmine, en 2025, là tout de suite, ou dans 5 ans, même dans 10 ans, va être beaucoup, mais vraiment beaucoup plus facile que ce que nous avions pendant notre jeunesse. Pourquoi ? Parce que je vais parler de l'IA, je vais parler de la visibilité, je vais parler des réseaux sociaux et je vais parler aussi du fait que les entreprises sont beaucoup plus dans la communication qu'avant. Et donc avant, on avait, autant que salarié, même du temps de nos parents, on avait cette notion-là de dire, bah, de toute façon, si tu as un travail, bah, alhamdoulilah, et puis par la suite, de toute façon, de toute façon, il a un travail. Mais maintenant, on voit que la génération Z ou même la génération Alpha qui va venir par la suite a besoin de s'affirmer déjà, a besoin d'avoir une qualité de vie, une qualité de travail beaucoup plus importante. Et l'IA, bien sûr, avec toute la partie générative, peut donner des prévisions qui sont très, très justes. Sur les métiers qui sont porteurs. Voilà. Donc
tu parles beaucoup de métiers porteurs, mais tu ne parles pas, en fait, tu parles beaucoup moins du plaisir à travailler, du plaisir à exercer son métier.
Oui. Alors pourquoi ? Pourquoi j'en parle ? Pourquoi j'en parle pas ? Parce que pour moi, il est important. Alors, il est important déjà. En fait, c'est suivant la pyramide de Maslow. Il est important déjà de se retrouver soi-même par rapport à ce qu'on fait. Mais puis par la suite, il n'y a pas que la partie du cœur. Il y a la partie aussi de la raison et de l'intelligence émotionnelle pour se dire, ok, si je souhaite par la suite avoir un avenir parfait. Peut-être pas parfait, c'est très prétentieux, mais un avenir positif, avoir, pouvoir peut-être créer une famille ou pas, mais en tout cas que je sois épanoui, il faut que je trouve quelque chose qui me plaît, bien sûr, mais quelque chose qui a une certaine stature dans la société. Et c'est à travers cela qu'on peut combiner les deux. Bien sûr, je peux te dire demain, Yasmine, moi ce que je voulais, c'est être poète, mais finalement, ça n'est pas un métier qui fait manger du pain. Tu vois, donc il y a un certain moment où la raison prend le dessus.
Alors, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas de chiffres, sinon ça pourrait paraître comme étant un stéréotype. Donc, je ne réponds pas à la question, ni à l'affirmation.
Ok, d'accord. Et donc, l'idée, c'est combiner les deux.
C'est combiner les deux, tout à fait.
Voilà.
Et puis le luxe qu'on a appris aussi maintenant, c'est que finalement, on pouvait opérer des changements de cap de vie à n'importe quel moment de sa vie. Donc, pour rejoindre ce que tu disais, tout dépend de la pyramide de Maslow, en effet. Exactement. Donc, si au début, c'est purement alimentaire, mais en même temps, avec un petit peu de plaisir, ça serait bien, fonder une famille, etc., rien n'empêche qu'on attende de découvrir ce qui nous plaît vraiment à un âge un peu plus avancé et se lancer.
Exactement.
Le monde n'est plus figé, la vie n'est plus figée.
Non, il n'est plus figé et Dieu sait que pour la reconversion, il y a maintenant, encore une fois, avec l'IA, avec les réseaux sociaux, des possibilités de se reconvertir, même avec des cours du soir gratuits, pour un petit peu, pour arriver à ce qu'on veut. On a juste un chiffre que je peux te donner, c'est qu'en 2024, on s'est amusé à faire une sorte d'inventaire et de sondage au niveau des jeunes qu'on encadrait. Et on s'est intéressé à peu près à 200 jeunes ou 170 jeunes. Sur les 170 jeunes, on a eu 61%, tu entends bien, 61% de personnes, de jeunes qui se sont reconvertis. C'est-à-dire, ils ont fait leur master, ils ont fait leur études universitaires, puis par la suite, au bout d'un an, à être supportés par les parents et à être pris en charge par les parents, ils ont décidé d'aller voir sur d'autres secteurs, ou bien de renouveler de nouvelles études, ou bien de rentrer dans un autre domaine. Donc effectivement, il n'est jamais trop tard. Et en fait, c'est ce qu'on conseille aux jeunes et aux moins jeunes qu'on encadre, c'est qu'on leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas, à un certain moment, attendre pendant toute une vie d'avoir le métier parfait, ou bien le métier correspondant à votre diplôme. À un certain moment, vous devez vous-même vous prendre en charge et dire, ok, j'ai attendu un an, j'ai attendu 6 mois, et maintenant, à charge à moi d'aller voir ailleurs.
Merci beaucoup. Mehdi Grini d'avoir été ma version homme d'aujourd'hui. C'est déjà fini.
Mais j'ai pas vu le temps.
Ben voilà. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.